Vous êtes sur RTL.
RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et à 8h, c'est Agnès Bonfillon qui vous informe le dimanche. Bonjour Agnès.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous.
Alors soyons logiques, après les juilletistes, les aoûtiens, c'est au tour des septembristes.
On n'est pas à l'abri d'un coup de fil de Muriel Gilbert. Plus que deux jours avant la rentrée scolaire et certains profitent de l'arrière-saison pour partir en vacances. Cet été, les professionnels du tourisme ont enregistré une baisse de fréquentation inédite à Paris. Moins 95% d'étrangers. Ailleurs en France, le bilan est meilleur, heureusement. Pour ces prochaines semaines à la Cano-Océan, par exemple, on espère continuer à surfer sur la vague de Denis Grandjean.
Oui, même avec une météo teintée de gris, pas mal de vent et des nouveaux vacanciers en manches longues plutôt qu'en t-shirt.
Le fond de l'air n'est pas très chaud.
La Cano-Océan attend septembre sans trop de stress. Loïc Coissin de l'Office du Tourisme.
La grande inconnue, comme l'inconnue il y a deux mois quand on ne savait pas trop à quelle sauce on allait être mangé pour l'été. Donc on reste plein d'espoir, les professionnels sont encore ouverts.
Parmi ces pros de l'accueil, Vincent Hipp, directeur du camping 5 étoiles qui traditionnellement reçoit à la fin du mois d'août de nombreux vacanciers venus de toute l'Europe, notamment du Nord.
On a forcément des Allemands, des Hollandais et des Belges, et c'est vrai que on attend de voir un petit peu décision prise sur septembre pour voir si cette clientèle sera là ou pas.
Les Français septembristes, eux, commencent à arriver et ils savent pourquoi ils ont choisi cette période.
Ah oui, c'est plus calme, donc il y a déjà un peu moins de monde, alors on aime bien.
Avec aussi dans la tête l'idée de faire le vide, loin, très loin du Covid.
Oui, c'est ça, c'est le fait de voir l'océan, d'avoir l'air marin, le sable. On est dans une autre, quand même un peu dans une autre dimension, on est un peu ailleurs. Mais on oublie, voilà.
Bon, profitez, oubliez tout alors.
C'est ça, merci. Merci. Au revoir.
C'est en septembre, quand les voiliers sont dévoilés.
Le reportage de Denis Grandjean pour RTL.
Profitez bien, pour la plupart. Par contre, septembre rime avec rentrée scolaire et rentrée tout court.
Et cette année, forcément, pour les plus jeunes, c'est un retour en classe avec des mesures sanitaires très spécifiques. Masque obligatoire à partir de 11 ans, gestes barrières et un maximum de classes en plein air. En tout cas, c'est ce que souhaite le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Car selon les scientifiques, les risques de contamination au Covid sont bien moindres à l'extérieur. Certains enseignants pratiquent déjà ce type d'enseignement. Alors à quoi ressemble une classe en plein air, Marie Guerrier ?
Ça peut être tout simplement s'installer dans la cour de récré, sous un préau, un bout de pelouse. Mais c'est aussi sortir de l'école. Tous les vendredis matins, à Abray, dans l'Allier, Céline Larpin emmène sa classe de petite et grande section sur une colline toute proche.
On a un point de vue qui est superbe. Et j'ai prévenu les parents en début d'année que nous sortirions par tous les temps. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente.
Bottes, pantalons et vestes imperméables si besoin. Et là, c'est tout le champ des possibles qui s'ouvre.
Se dire qu'aujourd'hui, les situations mathématiques, on ne les vit pas assis à table à compter des jetons en plastique. Mais par contre, on va aller chercher des cailloux. C'est aussi des séances d'écriture, pouvoir tracer avec des bâtons plutôt qu'avec un crayon de papier. Tout ce côté sensoriel.
Céline a fait un constat.
J'habite dans une commune dortoir où les enfants viennent en voiture à l'école. Souvent, font des situations de sport, mais à l'intérieur, on est souvent enfermé. Offrir cet espace et se dire, on est libre.
Et on peut se raconter des histoires.
On va aménager une table pour des petits lutins de la forêt. La coquille de noix devient un petit pot. Enfin voilà, tout de suite on est dans l'imaginaire.
Chaque vendredi, elle demande à un parent de les accompagner pour aider à l'encadrement et pour partager cette expérience de classe en plein air.
Le reportage de Marie Guerrier pour RTL. Nous sommes prêts à deux jours de la rentrée scolaire. Jean-Michel Blanquer s'exprime dans le journal du dimanche. Le ministre de l'Éducation nationale appelle bien sûr à la vigilance, mais sans oublier, je cite, les impératifs éducatifs et sociaux. Par ailleurs, il annonce un Grenelle des professeurs en décembre. Objectif, moderniser et revaloriser le métier, sans oublier d'améliorer le bien-être au travail.
Ces grandes vacances, Agnès, auront été marquées par de très nombreux incendies, et pas seulement dans le sud-est.
Non, banlieue toulousaine, dans le village de Villaudric, 14 feux ont été allumés ces dernières semaines, en un mois. Il n'y a aucun doute, ce sont des incendies volontaires. Ça tourne à la psychose, car le pyromane court toujours, malgré de très gros moyens déployés par la gendarmerie. Patrick Hisson.
Oui, et à chaque fois, ce sont des bois et de la végétation qui sont partis en fumée. Le dernier incendie en date, il y a 3 jours, s'est même approché dangereusement de 2 maisons. Denis Paris est adjoint au maire de Villaudric.
Sitôt que quelqu'un voit de la fumée, tout le monde est sur aux aguets pour voir s'il voit quelqu'un et le signaler à la gendarmerie de suite, parce qu'ils sont énormément sur place. Beaucoup d'effectifs de gendarmerie, y compris hélicoptères et tout, donc tout le monde souhaite qu'on attrape cette personne-là.
Car l'origine criminelle ne fait pas de doute et le pyromane est manifestement très mobile. Il pourrait pourrait même agir sans quitter sa voiture.
En passant, il doit ouvrir la vitre, il jette cet allume-feu et puis il s'en va, il doit en jeter même plusieurs au cas où ça ne prendrait pas. Et c'est sa technique, je ne sais pas pourquoi il fait ça, mais bon, tout le monde est suspect. Hein. La gendarmerie prend en photo tous les badauds, prennent leur identité. Et tout le monde regarde son voisin en disant c'est peut-être lui. Quoi. Donc ça crée un climat qui n'est pas du tout serein dans le village.
Un village où la pluie qui tombe depuis vendredi est pour l'instant la seule bonne nouvelle pour enrayer les projets du pyromane en série de Villaudric.
Le reportage de Patrick Hisson pour RTL à Nantes. Un multirécidiviste a avoué le viol et le meurtre d'une adolescente de 15 ans le 20 août dernier. C'est un échec pour la société, c'est un échec pour tout le monde, a déclaré le procureur adjoint aux journalistes hier. Le suspect de 45 ans avait déjà été condamné en 2005 à 18 ans de prison pour 9 viols et 3 tentatives. Ce matin, toujours plusieurs centaines de fêtards dans la Creuse. Ils participent depuis hier à une rave party illégale à Feunier. La préfecture avait pris un arrêté pour interdire les rassemblements à cause des risques liés au Covid en vain. 200 gendarmes sont sur place appuyés par un hélicoptère. Pas d'évacuation mais des verbalisations et des interpellations.
Très bon réveil à vous tous, il est 8h06. Dans un instant, la suite du journal d'Agnès Bonfillon avec l'émotion suscitée par une caricature du magazine Valeurs Actuelles. La députée Danielle Obono représentée en esclave. Elle songe à porter plainte. On vous explique juste après ceci.
RTL Matin. RTL Matin avec Stéphane Carpentier.
Et Agnès Bonfillon pour la suite du journal avec cette condamnation unanime de la classe politique après une série fiction publiée par Valeurs Actuelles.
Dans son dernier numéro, le magazine conservateur met en une Danielle Obono, députée de la France Insoumise. Elle est représentée en esclave, chaîne au cou. Image qui provoque une très vive émotion, cet abject, inacceptable. Ce n'est ni plus ni moins que l'apologie du racisme. Beaucoup de personnalités politiques se sont exprimées. Alors que l'intéressé songe à porter plainte, le chef de file de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, lui, dénonce un harcèlement nauséabond.
On ne peut pas concevoir que ce soit qui ait la dignité républicaine au cœur et l'amour de la patrie républicaine au cœur puisse accepter qu'une parlementaire soit caricaturée en esclave parce que la couleur de sa peau est noire. Et je me réjouis de voir que de nombreuses personnes de divers bords politiques se solidarisent dans la dénonciation du procédé utilisé par le journal Valeurs Actuelles, qui est redevenu une espèce de feuille d'égout classique de l'extrême droite, maniant l'injure, la caricature haineuse. Au regard de la couleur de peau des gens, c'est tout à fait déplorable. Pour être clair, je pense que ceux qui ont dénoncé la racisation de la politique avaient raison. On met en cause Madame Obono parce que la couleur de sa peau est noire. Eh bien aujourd'hui, Madame Obono, c'est la République.
Jean-Luc Mélenchon répondait à Antoine Decarte pour RTL. Le racisme encore et toujours dénoncé aux États-Unis. Il y a une semaine, jour pour jour, un Afro-Américain de 29 ans était atteint de 7 balles dans le dos par un policier. Le président Trump a annoncé qu'il se rendait mardi dans le Wisconsin, à Kenosha, là où a eu lieu le drame. Il rencontrera les responsables locaux des forces de l'ordre. En revanche, pas sûr qu'il rende visite à la famille du jeune homme désormais hémiplégique.
Agnès, un Norvégien en jaune et des chutes en cascade. Voilà pour le premier jour du Tour de France à Nice.
À cause de la pluie, beaucoup de glissades durant cette première étape. Et c'est effectivement Alexander Kristoff qui a enfilé le maillot jaune. Décidément, cette grande boucle 2020 restera à part. Comme tous les matins, carnet de route avec Laurent Jalabert et Christophe Paco.
RTL, Tour de France 2020.
Le carnet de route de Laurent Jalabert.
Avec Christophe Paco.
Bonjour Laurent Jalabert.
Bonjour Christophe.
Des nuages sur le Tour, au sens propre comme au sens figuré, de la pluie et des chutes qui vous ont marqué, Laurent.
Et la pluie a fait son apparition en cours d'étape sur cette première étape du Tour de France hier. C'est devenu une véritable patinoire. Les chutes se sont enchaînées les unes derrière les autres. Au moins la moitié du peloton a fini par partir à terre. Et parmi eux, jusqu'à 3 km de l'arrivée, on a même retrouvé un des leaders, Thibaut Pinot, qui a chuté, alors visiblement pas trop touché, mais le moral quand même un petit peu atteint.
Moral dans les chaussettes pour certains. Première étape très difficile et des coureurs qui ont pris l'initiative de neutraliser un moment la course.
Voyant que l'étape devenait trop dangereuse, c'est vrai qu'il y avait un moment où on pouvait craindre le pire. Les coureurs, d'un commun accord, se sont concertés et ont décidé de lever le pied sur des routes devenues vraiment impraticables. Ils ont abordé toute la partie délicate du parcours jusqu'aux 25 derniers kilomètres à une allure modérée. Et après, la course a repris ses droits parce qu'il y avait quand même une belle victoire d'étape à aller chercher avec un beau maillot jaune. Un sprint houleux, puis au bout de la dernière ligne droite, Alexander Kristoff, le champion norvégien qui a surgi tout en puissance et qui s'impose nettement devant le champion du monde. Christophe, qui revêt pour la première fois de sa carrière le maillot jaune de leader.
Pas sûr qu'il y ait un sprint aujourd'hui, on en reparle tout à l'heure. L'étape du jour, c'est à 10h sur RTL.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure, 10h et ensuite régulièrement hein, cet après-midi en direct jusqu'à l'arrivée sur RTL. En foot, suite de la deuxième journée de Ligue 1, Nice décidément à l'honneur. Les Aiglons très efficaces à Strasbourg hier 2-0 et désormais en première place du classement. Rennes de son côté bat Montpellier 2-1. Au menu de cet après-midi, Metz-Monaco, Nantes-Nîmes, Saint-Étienne-Lorient et ce soir Brest-Marseille, ce sera à 21h.
Voilà, joli programme, ce sera en direct dans RTL Foot évidemment.